Voilà, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a une église qui est venue pour louer Jésus dans cette salle? Là, il y en a. Je vois une main là-bas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus louer Jésus dans cette salle? Yes. Est-ce que vous avez des mains? Est-ce que vous avez des jambes dans cette salle? Oui. On a des mains, on a des jambes. Je vous invite à vous lever pour prendre ce premier chant où on va proclamer qu'on est venu ce matin pour célébrer notre Sauveur, notre Roi des Rois, Jésus-Christ. Si vous avez des mains, vous allez le reclamer.
Le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Faisons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et seigneur.
pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de mystères. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, oh, Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Qui ramène la paix dans la confusion, change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, brille comme le soleil, tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle race incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix. Que tu sois mort pour moi, tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Oh, 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 Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Je chante pour ce que tu as fait.
Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on proclame, tout ce qu'on chante, c'est à propos de Jésus dans ce lieu. C'est pas par nos propres efforts, par nos mérites, par la collection de nos performances que nous pouvons nous approcher de Jésus. Nous pouvons nous approcher de Dieu parce que c'est lui le rocher ferme et sûr. Celui qui a fait ce que nous étions incapables de faire. Celui qui a offert sa vie pour nous racheter, celui qui a offert sa vie pour nous transformer. Peu importe les luttes, peu importe les combats qu'on peut traverser, nous pouvons trouver un sûr abri, un sûr appui en nous approchant de Jésus encore ce matin. C'est ce que ce prochain chant va proclamer. Jésus est mon rocher. Même lorsque l'orage frappe, il reste et demeure le Dieu sur son trône. Celui qui s'investit, celui qui vient nous chercher, celui qui se tient à nos côtés encore ce matin. Tu puisses prendre ce chant comme une prière ce matin. Je ne sais pas ce que tu peux traverser ou vivre. Mais proclame sur ta vie qu'il est ton rocher. Mets tes pensées, fixe tes pensées alors que tu vas chanter ce chant. Peut-être des situations qui sont là, dépose-les ce matin à celui qui a tout accompli, à celui qui veut se tenir encore à tes côtés ce matin, celui qui veut être le socle sur lequel tu bâtis ta maison. Tu peux t'approcher de lui avec foi et confiance ce matin. Il est fidèle, il est fidèle.
Seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre. Christ seul est mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui, je n'en veux point d'autre. Mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur de tout. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Thank you. s'il reviendra nous trouver. En lui pour toute l'éternité, revêtu de sainte justice et semblable devant son trône.
Est-ce qu'on peut élever le nom de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer son nom simplement? Seigneur, on élève ton nom encore. Il est le Seigneur de tout, il est celui qui est au-dessus de tout. Est-ce que l'église de l'Épi peut prendre sa place dans la louange, dans l'adoration? Ensemble, élevons le nom de Jésus. Celui qui est ton rocher ce matin, celui qui a dit qu'il ne te délaisserait pas, qu'il ne t'abandonnerait pas. C'est ce Dieu sur qui on s'appuie ce matin. N'hésite pas à prendre ta place dans la louange. Alléluia. Quand l'église prie, l'enfer tremble. Et nous voulons croire ce matin que la prière du juste a une grande efficacité. Alléluia, Jésus. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci pour ce rocher inébranlable. Merci parce que tu n'as pas dit que c'était fini. La Bible nous dit: quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais, au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous, et pourtant nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors c'est sûr, le Christ va nous sauver ainsi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Et ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. C'est Romains 5, 6, en version Parole de vie, et qui nous parle, et j'aime ce texte qui nous dit que Dieu a prouvé son amour pour nous. Je vais inviter l'équipe qui a préparé la Sainte Cène à s'approcher, et j'aime ce texte qui nous rappelle que Dieu a choisi d'envoyer son Fils, Et la plus belle preuve qu'il nous ait fait, c'est nous dire qu'un jour, par amour, il a donné son fils. Par amour, il a accepté que son fils meure. Et son fils est mort afin que nous ayons la vie et la vie en abondance. Et alors que nous allons prendre ce temps pour la Sainte Cène, on va partager. J'aimerais qu'on puisse se souvenir d'une chose, c'est que Dieu a choisi de prouver son amour en envoyant son fils. Et c'est la plus belle preuve qu'on peut avoir, la plus belle preuve d'amour, de savoir que quelqu'un a donné sa vie pour vous, pour moi, pour nous. Je ne sais pas dans quel état tu es venu ce matin, mais ce que je sais, c'est que tu as l'opportunité ce matin de t'approcher de la croix, de ce que Jésus a fait, pour saisir pleinement et entièrement la preuve de l'amour de Dieu pour nous. Est-ce qu'on peut prier maintenant ? Et je vous inviterai à vous lever pour qu'on puisse partager ensemble le pain et le vin. Seigneur, on est devant toi et on saisit simplement que ton amour est tellement énorme, tellement grand, tellement fort, qu'à la croix, Seigneur, tu as donné ton Fils. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ce matin, on se réjouit ensemble de découvrir et de redécouvrir l'amour de Dieu à travers le sacrifice de la croix. Merci pour ta présence dans ce lieu. Merci parce que cet amour, on peut le vivre jour après jour. Et alors qu'on va partager le pain et le vin, on se souvient que ton corps a été meurtri, que ton sang a coulé. C'est un souvenir extraordinaire, dur pour toi, mais qui a annoncé une victoire la plus totale, cette victoire de la résurrection sur la mort, cette victoire qui fait qu'aujourd'hui, on peut se tenir debout parce que Jésus est vivant. Et c'est pour ça qu'on est là, parce que tu es vivant. Et alors qu'on va vivre ce moment, Seigneur, rappelle-nous, rappelle dans nos cœurs combien tu nous aimes, rappelle à nos cœurs combien tu es vivant, rappelle à nos cœurs combien tu es le rocher des siècles, rappelle à nos cœurs qu'il n'y a personne meilleur que toi, tu es celui qui a tout donné, c'est Jésus, Fils de Dieu, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort. À toi la gloire, Jésus. Amen. Pour faciliter le passage, on va passer comme à l'ancienne, on va passer avec des plateaux, avec le pain et le vin. Ne vous inquiétez pas, on va faire ça bien. Vous gardez le petit gobelet, on mettra le gobelet ensuite dans un petit bac qui permettra de les récupérer.
Coula pour moi, aucun amour n'est plus grand. gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
À la croix,
à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand
que toi, Seigneur Jésus.
Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli.
Tu déchires
le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli.
Tu resterais là. Je sais que tu... Dis-le à ton âme ce matin.
Je sais que tu m'aimes.
À la croix,
à la croix, je me prosterne. Où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli.
On va reprendre à la croix.
Je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand.
Il n'y a pas de plus grand amour que celui de Jésus.
Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer.
Ma vie, je redirai que je ne vis que pour lui. chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom.
Une dernière fois tous ensemble, je chanterai.
Je chanterai gloire.
Je voudrais apporter une pensée qui me semble vient du Saint-Esprit. Pour ceux qui nous regardent et qui ne connaissent peut-être pas le fonctionnement d'une église évangélique, sachez que nous croyons que Dieu parle toujours de différentes façons et notamment aussi à travers des hommes et des femmes, tout simplement. Et voici la pensée que j'ai reçue. As-tu déjà entendu le matin, très tôt, le pépiment d'un oiseau? As-tu déjà entendu, alors que le soleil est à peine en train de paraître, ce petit chant d'oiseau qui souvent réjouit ton cœur, te parle de bonnes choses, de printemps, de vie? Oui, tu sais que je suis en train de te parler, dit le Seigneur. Et voilà ce que je veux te dire aussi. Mon esprit te parle parfois de cette façon, doucement, avec juste une petite impulsion, un petit mot. Mais pour l'instant, tu ne le reçois pas, tu méprises cela, car tu attends une parole forte, tu attends comme l'orage. Le Seigneur te dit, oui, mon esprit peut te parler au travers de choses fortes, de l'orage. Il peut te parler au travers de miracles, de signes, de prodiges. Il peut faire tout cela. Mais il peut aussi parler à travers le murmure. Il peut te parler et veut te parler au travers de tout ce qui t'entoure. Regarde, observe. Regarde comment les gens travaillent. Regarde comment la nature fonctionne. Regarde les choses. Et tu vas découvrir qu'au travers de tout cela, Dieu veut t'enseigner, te dire des choses particulières et te donner des révélations. Tu attends des révélations puissantes, tu les auras, mais pas de la façon dont tu t'y attends. Alors maintenant, regarde, observe et accepte parfois ce qui te semble être un doux murmure. Accepte-le, car ça peut être le début une grande histoire avec ton Seigneur.
On est reconnaissant à Dieu parce qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on ne veut pas laisser cette parole comme passer. Est-ce que peut-être on peut élever la voix tous ensemble ce matin et juste remercier Dieu parce qu'il est ce Dieu qui s'adresse encore à nous. Qu'il est ce Dieu qui a encore une direction, un projet, une conduite pour nos vies. Et ce matin, on veut juste s'aligner sur son cœur. Est-ce qu'on peut prendre juste quelques minutes pour prier? Pas besoin de crier fort, de prier fort, mais juste là où on est, de prendre ce temps pour réfléchir à tout ça et puis être reconnaissant parce que Dieu dirige nos vies et qu'il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre.
Thank you. merci Jésus parce que tu ne nous as pas appelés serviteurs, mais tu nous as appelés tes amis. Puis tu conduis, tu parles, tu révèles tes plans à tes amis. Quelle grâce de savoir que notre vie, elle est en sécurité dans tes mains. Quelle grâce de savoir que peu importe les circonstances que tu permets que nous traversions, tu es le capitaine du navire de notre vie, Père. Et tu sais où tu nous emmènes. Alors simplement, ce matin, je suis reconnaissant, Jésus. Reconnaissant d'un jour t'avoir fait confiance et d'avoir renouvelé cette confiance chaque jour. Et Seigneur, je te demande de me donner la force, de continuer à te faire confiance, que je parte ou que tu reviennes, Seigneur, que jusqu'au bout, Seigneur, je m'appuie sur toi. Tu es un rocher solide, on l'a chanté, Père, et que ça puisse être vrai pour nos vies ce matin, Jésus. À toi la louange et la gloire, Père. Amen.
C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Amen. Moi, j'aime quand Dieu nous parle d'une manière douce, d'une manière où il vient toucher le fond de notre cœur. Et ça, c'est tellement agréable. Est-ce qu'on est bien là? On est bien, il fait un peu chaud. Hein, si vraiment vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas, vous regardez l'équipe d'accueil, ils sont là, ils ont des bouteilles d'eau, ils ont des verres, ils sont à votre disposition. Si vraiment vous n'êtes pas bien, n'hésitez pas. Si vous préférez aussi vous mettre plus vers le fond pour avoir l'air, n'hésitez pas, on est à votre disposition et toute l'équipe d'accueil est là pour vous entourer en cas de besoin. Merci à toute l'équipe qui nous a entourés pour la Sainte-Seine. Et je crois que c'est juste bon de savoir et de se rappeler l'amour de Dieu pour nous. Alors, avant d'aller plus loin dans la suite du message, j'aimerais juste vous faire deux annonces. Enfin, une annonce et puis une annonce un peu plus particulière. Et puis, après quoi, on laissera toute la place à Timothée. La première annonce, mais je pense qu'elle va parler d'elle-même. Je vous propose qu'on regarde une petite vidéo ensemble et puis qu'on puisse comprendre, vous allez comprendre par vous-même, le type d'annonce dont je vais vous parler. Est-ce que tu peux, la technique, je remercie la technique d'ailleurs qui nous assiste et qui est là avec nous. Et si tu peux balancer la première vidéo concernant le ménage, merci.
Votre mission, si vous l'acceptez, consiste à aider le service ménage de l'église. Pour cela, vous trouverez dans cette valise tout le nécessaire afin de mener à bien votre tâche. Ce message s'auto-détruira dans 5 secondes.
Venez rejoindre l'équipe ménage.
On vous attend.
Votre dernière mission sera de réunir un maximum de bénévoles dans l'équipe ménage. Pour vous aider, un stand se tiendra à votre disposition à la fin du culte.
Merci à l'équipe ménage qui a tourné ce clip. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Je pense pas. À l'accueil, vous avez tout ce qu'il faut, toutes les informations. Venez nous donner un coup de main. C'est tellement agréable d'avoir une église propre. Et je veux remercier toute l'équipe de ménage qui, dimanche après dimanche, dans la semaine, vient nous bénir. Est-ce qu'on peut les applaudir bien fort? N'hésitez pas à venir vous inscrire, même si vous donnez un samedi, un dimanche par mois. Plus on est et plus on réduit le nombre de fois où on fait le ménage. Donc, on a besoin d'aide. Merci à vous. Ma deuxième annonce, je vais inviter Betty et Xavier à nous rejoindre. Alors, pour ceux qui le savent, parce que je pense que vous le savez, Betty et Xavier sont les responsables de Épisode. Et Betty et Xavier, ça fait maintenant 15 ans qu'ils servent au niveau d'épisode. Pour épisode, vous savez ce que c'est ? C'est ceux qui s'occupent de vos enfants chaque dimanche. Et j'ai beaucoup de joie à vous recevoir, vraiment. Et j'ai envie de dire, après 15 ans de bons et loyaux services, Betty et Xavier ont décidé, ont choisi de prendre une autre orientation concernant leur service dans l'Église, leur ministère dans l'Église. Et je pense que ce matin, c'était important pour nous de prendre le temps de les honorer. Pourquoi ? Parce que pendant 15 ans, si vous étiez tranquille, c'est parce qu'eux étaient au taquet, dans tous les sens. Betty a travaillé à toute la programmation, tout le contenu, tout l'accompagnement des enfants, afin de leur apporter un contenu de qualité, afin que nos enfants puissent grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, mais aussi dans la connaissance de la rencontre avec Jésus-Christ. Et ça a laissé des traces, et moi je l'ai déjà dit, dans le cœur de mes enfants, mais aussi dans le cœur de beaucoup d'enfants. Xavier, c'est notre ingénieur en chef ici. C'est lui qui gérait toutes les plannings, toute l'organisation, les organisations des staffs, diriger les équipes, les planifier les rencontres, organiser le temps avec les enfants. Les enfants connaissent qui est Xavier. Et pendant plusieurs années, avec un staff autour d'eux, avec une équipe autour d'eux, ils ont pu bénir l'Église. Ils ont pu nous encourager. Et ils ont pu faire que, encore récemment, des ados ont servi. Et je sais que c'est des ados qui sont passés par épisode. Et je sais qu'il y a des enfants qui servent encore et qui vont servir l'Église. Pourquoi ? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont un cœur comme le vôtre. Pour que l'Église puisse grandir. Et j'ai juste une petite vidéo à vous montrer très courtement. Et puis après, on prendra un temps, on priera ensemble. Ça va ? Est-ce que tu peux mettre la deuxième ? Si on peut résumer 15 ans en quelques photos, je crois que c'était impossible. Mais j'ai juste demandé, je sais qu'il y a les membres du staff qui sont là, je sais que Nicole est là, j'ai vu Guillaume qui était là. Est-ce que vous pouvez monter aussi, Roselyne, je crois que je t'ai vu aussi. Est-ce que je peux avoir le staff qui est là, s'il vous plaît, venir avec nous, on va prier. Voilà, Guillaume, Elsa, Nicole était dans le coin, je l'ai vu aussi, voilà, si tu peux venir aussi. Et Roselyne, voilà, ça c'est toute l'équipe qui travaille aussi avec eux, ce qu'on appelle le staff. Et je pense que c'est bien aussi qu'on puisse les honorer. On a une équipe en or, vraiment. Et au nom du conseil spirituel, du conseil d'administration, de l'équipe pastorale, on voudrait vous remercier chaleureusement, vraiment, de tout cœur, pour le travail que vous avez accompli, pour ce que vous avez donné à l'Église, pour ces années, mais aussi pour ce cœur extraordinaire que vous avez pour l'Église. Il y a Anne qui va venir, on a un petit cadeau pour vous aussi. Et je vous laisserai découvrir. je vous laisserai découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Et je crois qu'il y a aussi, voilà, Roselyne qui arrive aussi. C'est bon ? On l'ouvrira après ? Moi, j'aimerais qu'on puisse prier pour vous, qu'on puisse vraiment vous bénir, vous encourager. Et je vais demander à Anne, qui est là, si elle peut vraiment prier pour vous. Mais bien sûr, vous pouvez dire un truc, évidemment. D'ailleurs, vous allez dire un truc avant qu'on prie, comme ça on priera après.
Bonjour à tous, merci beaucoup, PS, pour cet encouragement, ce remerciement qui nous touche. Merci de prendre le temps. Et tout simplement et très rapidement, moi je voudrais juste remercier en premier le staff qui est ici pour ces années de collaboration. C'est vraiment très très formateur. Vous étiez des gens Vous êtes des gens avec un cœur en or, avec des projets, avec une vision, avec de belles choses. Donc merci. Merci pour ce que vous êtes des trésors. Deuxième remerciement, c'est les moniteurs, les animateurs. Sans vous, on ne pourrait rien faire. C'est vous qui êtes auprès des enfants, qui priez pour eux. Je sais que vous préparez. Et donc merci pour les animateurs. Et en dernier, merci aux parents qui ont fait confiance à l'épisode et qui nous confient leurs enfants. Merci parce que vous les confiez pas juste pour passer un bon culte, mais pour qu'ils soient enseignés, accompagnés et accueillis.
Merci Betty, c'est très juste. Alors c'est toujours particulier et bizarre d'être remercié comme ça quand on arrête un service, mais pour moi c'est un service parce qu'on est tous au service de quelque chose dans l'Église et c'est presque dommage qu'on ne peut pas tous vous remercier parce qu'en fait, nous effectivement, on prend cet arrêt, mais il y en a plein qui continuent et qui ne s'arrêtent pas. Je ne peux pas vous dire le nombre d'années que Nicole est là engagée avec les enfants, c'est waouh. Voilà, et j'aimerais aussi m'associer à ce que Betty disait, vraiment remercier tous ceux qui servent dans l'Église. On l'a vu tout à l'heure avec l'équipe ménage, c'est vraiment extraordinaire. Et on est vraiment avec ce cœur de serviteur. En tout cas, moi, je veux rester avec ce cœur de serviteur, vraiment. Et juste pour vous dire que c'est pas triste qu'on parte, parce qu'on a vécu un temps vraiment extraordinaire de joie. Moi, j'avais vraiment du bonheur à être avec les enfants et à servir dans ces conditions. Donc je souhaite que vous reteniez ça, que dans le service, on peut vraiment le vivre avec joie. Et c'était notre cas, Betty et moi. Et voilà, et la vie continue. Il y a des saisons dans notre vie. Hein. Il y a des printemps, il y a des hivers. Et là, c'est le temps pour nous de tourner la page, hein, après ces 15 années, après 20 ans dans la louange aussi auparavant. Mais il y a une équipe qui est là et l'épisode ne s'arrête pas. Et ça, c'est extraordinaire pour nous aussi nous dire qu'on est serein parce que ça continue, quoi. Et vos enfants, ils seront accueillis dès septembre avec des choses qui sont en train de se préparer. Et là, par contre, c'est plus nous.
Je vais en parler juste après, mais en tout cas, voilà, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut les entourer vraiment? Et puis, je demande à Anne si tu veux bien prier.
Seigneur, je veux vraiment te remercier pour Xavier et Betty, te remercier, Père, parce qu'un jour tu as touché leur cœur et parce que à ton appel, ils ont dit oui. Seigneur, ils ont dit oui qu'ils voulaient te servir. Et Seigneur, merci pour toutes ces années, Seigneur, qu'ils ont mis, Seigneur, à ton service auprès des enfants. Merci parce que c'est vraiment important, un enfant à tes yeux. Seigneur, dans ta parole, tu le dis, laissez venir à moi les petits-enfants. Et merci pour ce que Xavier et Betty ont fait toutes ces années. Merci parce que je sais que leur service, Seigneur, à épisode a porté du fruit, portera du fruit. Mais merci parce qu'ils n'ont pas terminé, Seigneur. Pour eux, la saison d'épisode était terminée. Mais Père, tu leur réserves d'autres belles bénédictions, Seigneur. Alors je te prie de les accompagner dans cette nouvelle saison. Et je te prie d'accompagner la nouvelle équipe d'épisode, Seigneur mon Dieu, afin que ce travail perdure dans le nom de Jésus pour la gloire de ton nom, Père.
Amen. Est-ce qu'on peut les applaudir, mais bien, 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 bien fort.
Alors Xavier et Betty, c'est tout petit, c'est pas volumineux, mais c'est plein d'amour, à l'image de l'éventail cœur que vous avez eu en papier. Hein, écologie, crise, il faut s'adapter. Et ceci, c'est un cadeau symbole. Alors vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Je pense, Betty, que cette image de l'arbre te parlera. Chaque moniteur a écrit et peut encore écrire un mot. Vous êtes invité, si vous voulez, à la fin du culte, à rajouter un peu votre touche d'amour pour eux deux. Merci.
Et simplement vous dire que voilà, Betty et Xavier restent dans l'église, s'en vont pas, ils sont avec nous, on va les voir encore. Voilà, ils changent de service aussi. Et vous expliquez aussi ce qui va se passer après, parce que l'épisode continue quand même, comme ils l'ont dit. Et on a la joie aussi d'avoir parmi nous celle qui va pouvoir prendre la suite derrière Betty et Xavier. Et ce sera Magali Thoman, que vous connaissez tous, la femme de Mathieu.
C'est elle qui va prendre en charge l'ensemble d'épisodes. Elle va avoir une grosse mission derrière vous deux, mais on croit que Dieu va l'équiper pour remplir, pour vraiment être à la place qu'elle doit être. Et on croit que Dieu va la conduire pleinement. Merci de prier déjà pour son cœur. Elle partagera son cœur quand elle reviendra. Mais en tout cas, elle m'a dit, tu les salues bien, hein, tu salues tout le monde. Et voilà, Magali a vraiment... Juste passe derrière vous avec beaucoup de respect beaucoup pour tout ce que vous avez fait. Et on travaille à la transition de façon à ce que les choses se fassent bien. Donc voilà, priez pour épisode à partir de la rentrée. Ça va être une nouvelle direction, mais on sait que Dieu va conduire parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et... Amen à ça. Merci à vous. Et puis on va, sans plus attendre, je laisse la place à Michel qui va introduire notre orateur d'aujourd'hui.
Une saison de transition pour plein de domaines et de services dans l'EPI. Très heureux d'accueillir aujourd'hui la famille Minard, Timothée, Delphine, Ethan et Ève qui sont avec nous. Ils prennent quelques semaines de congé. Timothée est responsable de l'Institut supérieur de théologie évangélique à Madagascar. Et il a été avec nous, et la famille a été avec nous pendant quelques années ici à l'EPI. Et il a eu l'occasion de rédiger son doctorat, de faire son doctorat ici en théologie protestante à Strasbourg, ce qui l'amène maintenant à être responsable de cet institut à Madagascar où il enseigne la théologie. Et on est heureux de les accueillir ce matin. Alors, ils ont prévu aussi une petite vidéo, ils ont prévu un témoignage aussi, Delphine. Je vous laisse gérer ce temps à votre convenance. En tout cas, chaleureuse bienvenue ici à l'EPI à Strasbourg ce matin. On peut les accueillir à l'Alsacienne. Bienvenue.
Bonjour à tous. Bonjour. On est toujours très très content de venir vous voir, vous rencontrer, parce que on ressent au quotidien vraiment la place que peut avoir une église quand on est en mission. Surtout ces prières qui nous accompagnent. Je l'ai beaucoup, beaucoup vécu au niveau de ma santé personnelle. Et c'est pour ça que c'est toujours un plaisir de venir vous voir et de vous donner, bien sûr, des nouvelles, mais aussi d'en prendre, évidemment. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas eu de micro en main. Excusez ma voix qui vibre un peu. Mais pour donner un petit peu des nouvelles, vous le savez, j'ai été atteinte d'un cancer que j'ai dû soigner ici, à Strasbourg, à Licence. Ça a un peu chamboulé tout ce que nous avions prévu au niveau de la mission, au niveau de la famille, au niveau tout un tas de choses, même au niveau spirituel, ça a beaucoup bouleversé de choses. Mais pour donner des nouvelles, aujourd'hui, les choses sont rétablies, équilibrées. Chacun membre de notre famille a repris sa place. Le quotidien semble se dérouler assez correctement. En dehors de ce traitement que je dois quand même continuer à suivre, comme vous le voyez, je garde des séquelles que je ne vis pas mal. Ça me rappelle non pas la difficulté traversée, mais plutôt le soutien de Dieu. Je regarde mon bras et je me dis, si c'est tout ce qui reste, je l'accepte volontiers. Et l'accompagnement, les prières des uns et des autres, de ceux qui me connaissent, qui marque un peu, ça me permet d'avoir un souvenir. Voilà. Il y a ce traitement, bien sûr, qui me donne des effets secondaires, dont l'irritabilité, les sauts d'humeur, mais je les gère. Mais dès que j'arrive à la maison, mon mari est sympathiquement un receveur. Mais les choses, dans l'ensemble, c'est vraiment, se sont vraiment remis en place. Comme vous voyez, on peut respirer. Ça fait un plaisir fou. De pouvoir d'à nouveau servir Madagascar, ses églises, l'Institut. Et au sein de mon travail, je suis assistante sociale au consulat de France. Et là, j'ai aussi une œuvre que j'apprécie beaucoup parce qu'elle elle me fait me rappeler mon humanité. J'éprouve des tas de choses. J'ai pas éprouvé de la colère face à la corruption et les mensonges qui sont dits pour pouvoir obtenir des choses. On pourrait, à la limite, souvent excuser, mais le mensonge ne s'excuse pas. On peut aussi, et je ressens aussi beaucoup de honte, je dois l'avouer, quotidien, parce qu'il y a beaucoup de Français qui viennent à Madagascar et qui se retrouvent avec des jeunes filles tout juste majeures et qui laissent à ces jeunes filles des enfants qu'ils délaissent. Donc, beaucoup de honte aussi. mais beaucoup de joie aussi quand on arrive à sortir à des situations, permettre à des jeunes d'entrer en formation, de venir ici, d'avoir un avenir. Voilà, il y a aussi énormément de satisfaction. Ce travail, je l'apprécie parce qu'il me confronte à mon humanité. Je me sens vivante et au service de Dieu, bien sûr. Voilà. Je laisse la parole à mon mari.
J'ai déjà mis. Oui, merci encore à tous pour votre soutien. Et c'est vrai que on a un petit quelques images qu'on peut afficher en même temps. Voilà, il y avait un diaporama avec quelques images. Alors de mon côté, donc moi en tant que théologien, voilà, c'est notre petite famille. Hein, vous avez pas vu juste avant Ève et Ethan qui sont assis là. Ouais, on peut remettre la diapo d'avant. Oui, je vais juste mettre pause. La deuxième. Merci. Voilà, donc on habite à Tananarive, c'est la capitale de Madagascar. On est là-bas depuis 5 ans, depuis 2018. Et on est envoyé en tant que missionnaire par la Fédération Baptiste, mais on est soutenu aussi par différentes églises, et notamment l'EPI. On vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour vos prières, pour vos messages, ça nous fait beaucoup de bien. De mon côté, moi, en tant que théologien, ma mission principale, ça consiste à accompagner le développement de la formation biblique théologique parmi les églises évangéliques à Madagascar. Alors pourquoi développer la formation biblique, la formation théologique, en particulier parmi les évangéliques? Parce que, c'est la diapo suivante, Jésus, avant de monter au ciel, nous a laissé cet ordre de mission. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai ordonné. Nous sommes appelés à faire des disciples et on oublie souvent que le mot disciple, ça signifie simplement élève, étudiant, celui qui apprend. Un disciple, c'est celui qui apprend, c'est un élève en grec ou aussi dans l'équivalent hébreu ou araméen. C'est ça le sens premier du terme. C'est quelqu'un qui apprend. On est tous appelés à être des apprenants, des gens qui apprennent à l'école du Christ. Et donc, dans la mission, un des aspects fondamentaux de la mission, c'est d'enseigner, de transmettre, de former des chrétiens pour qu'ils puissent mettre en pratique ce que le Seigneur nous a transmis, pour qu'ils puissent vivre une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc la formation, l'enseignement, c'est au cœur de la mission chrétienne. On habite donc à Tananarive et à Tananarive, vous avez plus de 95% des 3 millions d'habitants environ qui se disent chrétiens. Il y a une photo ensuite où vous voyez différentes églises, la diapo suivante, où tous les dimanches, vous avez différentes églises à Tana, beaucoup d'églises protestantes, réformées luthériennes, des églises catholiques, mais aussi des églises évangéliques. Tous les dimanches, les églises sont pleines à craquer partout. Les stades de la ville sont régulièrement utilisés pour faire des concerts de louanges, pour des campagnes d'évangélisation, et c'est plein. On a des gens, un christianisme qui est actif, qui est très très présent dans la ville, et pourtant, on pourrait dire que ça doit être le paradis, alors ça doit être le ciel sur la terre. Malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. La corruption est omniprésente, la criminalité est importante dans la capitale, les mœurs conjugales sont, quand on creuse un peu, pas beaucoup meilleures, on pourrait dire, que ce que l'on peut trouver dans nos villes françaises à majorité athées. Et donc, un problème quelque part. Il y a différentes raisons probablement à cette situation, mais on se rend compte que les mentalités de ceux qui se disent chrétiens n'ont pas toujours été transformées par l'évangile de Jésus-Christ, par la parole de Dieu. Et donc former des disciples, pourquoi je parle de ça? Parce que former des disciples, c'est quelque chose d'essentiel. On n'est pas juste appelé à former des convertis ou des gens qui disent « je donne ma vie à Jésus », mais former des disciples qui vont progresser, qui vont se laisser transformer par la parole de Dieu dans tout ce qu'ils sont, dans tout ce qu'ils font. Alors, la diapo suivante nous parle de l'ISTE, donc l'Institut supérieur de théologie évangélique. C'est ma mission principale d'enseigner dans cet institut, d'accompagner aussi au niveau pédagogique. C'est une petite faculté de théologie évangélique à Madagascar qui était la première de ce type de niveau universitaire au niveau évangélique. Alors bien entendu, la formation de disciples, ça commence dans l'église locale. On est appelé à être des disciples dans la vie courante, dans l'église locale. Mais qui est-ce qui va former ces disciples? Et qui est-ce qui va former les responsables de l'église qui vont former les disciples? Et qui est-ce qui va former les formateurs des responsables de l'église? À l'ISTE, il y a cette petite diapo ensuite qui nous montre cela, notre idée, c'est de former au plus haut niveau et de former en fait pratiquement des formateurs de formateurs de formateurs. Et on a cette idée que si on forme au plus haut niveau un seul étudiant, il va ensuite, dans certains cas, avoir un impact sur la qualité, on pourrait dire, de la formation de milliers de chrétiens. Un petit exemple, juste c'est la diapo suivante, vous avez une photo de Nadzu, c'est son nom, son petit nom, il y a souvent les noms malgaches, on les raccourcit, il y a un nom d'usage. Et lorsqu'on a pris l'avion pour partir en France, on l'a croisé à l'aéroport, Nadzu, il prenait l'avion aussi en même temps. Nadzu était étudiant à l'ISTE entre 2006 et 2010, il y a pas mal d'années. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il enseigne dans des écoles bibliques qui forment les pasteurs, des écoles bibliques baptistes et évangéliques qui vont former les pasteurs sur le terrain. Il est aussi président de la plus grande union baptiste de Madagascar, qui réunit plus de 400 églises. Et lorsqu'on l'a croisé à l'aéroport, il était avec le représentant de l'Alliance baptiste mondiale pour toute l'Afrique, et tous deux s'en allaient pour visiter deux petites îles qui sont pas loin de Madagascar, deux autres pays, et encourager les chrétiens là-bas. Vous voyez, c'est un exemple, mais pour vous montrer un peu pourquoi, voilà, ce qui nous motive aussi dans cette formation au plus haut niveau, voilà aussi l'impact que ça peut avoir sur beaucoup, nous croyons, d'églises. Voilà le cœur de notre mission. Alors, quelques nouvelles de l'ISTE depuis la visite l'année dernière. Faire la diapo suivante. Là, c'est le personnel de l'ISTE cette année. On est encouragé de voir qu'il y a quelques jeunes qui prennent progressivement la relève. L'équipe qui a créé l'ISTE en 2005 et a dépassé les 70 ans et aspire un peu à la retraite. Mais petit à petit, il y a quand même une relève qui arrive, qui se crée. La diapo suivante montre les enseignants de l'ISTE. On voit petit à petit quelques jeunes qui se rajoutent. Mais vous savez, former un enseignant en théologie, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'années, et le chemin est donc encore long. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'après les années Covid, pendant lesquelles les frontières de Madagascar étaient quasiment fermées, c'était quasiment impossible de venir à Madagascar, quand vous n'étiez pas résident là-bas, nous avons été encouragés cette année, parce que maintenant tout ça est derrière nous, on a été encouragés parce qu'on a eu beaucoup de visites venus d'Europe durant l'année écoulée. On a Didier et Sandrine Rich qui sont parmi vous, que vous connaissez bien, qui nous ont visités aussi cette année, mais aussi des professeurs d'Europe qui viennent enseigner, de Suisse, de France, de Belgique, qui viennent enseigner à l'ISTE, souvent de manière bénévole. Et on est très reconnaissant pour ces visiteurs qui viennent nous encourager de voir qu'il y a un soutien parmi les chrétiens évangéliques d'Europe. Notre point qui est plus un sujet de prière, c'est la diapo suivante. Là, vous voyez tous les étudiants, le personnel de cette année, et on était assez encouragés les années précédentes par un nombre un peu grandissant d'étudiants. Mais là, cette année, l'année qui vient de se terminer, on a été surpris de n'avoir que deux nouvelles étudiantes en première année, dans l'année qui vient de s'écouler. Les deux étudiantes ici, on est reconnaissant pour elles, mais c'est quand même un peu une surprise d'avoir si peu d'étudiants. Et pour l'année qui vient, qui commencera au mois d'octobre, la prochaine année académique, on n'a pour l'instant encore aucun inscrit. Et c'est vraiment un sujet de prière qu'on veut vous laisser. Merci de prier pour que le Seigneur suscite des vocations. Il y a tellement de besoins et tellement de potentiel à Madagascar. Et nous croyons que le Seigneur veut appeler encore certains jeunes à se former au plus haut niveau, certains jeunes ou moins jeunes. Alors merci de prier pour cela, parce qu'une école sans étudiants, ça n'a pas tellement de sens, n'est-ce pas? Et on veut prier, on veut croire que le Seigneur va encore rappeler certains. Alors, je terminerai avec quelques nouvelles plus personnelles. Et mon épouse a parlé des questions de santé. On est reconnaissant pour ce que le plus dur est derrière nous. Il y a aussi notre fille Ève qui est passée par des problèmes de santé ces dernières années assez difficiles, qui avait une jambe qui la faisait beaucoup souffrir. Elle a eu deux opérations en 2021 et 2022. Et aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que ses douleurs ont disparu. Elle remarche normalement, vous pourrez la voir après si vous voulez. Elle est en forme, merci Seigneur, merci pour cela. Mais on vous invite aussi à prier encore pour notre santé. Et beaucoup de missionnaires à Madagascar, c'est vraiment la santé qui est un des points principaux où on se sent éprouvé. Et c'est vrai que notre vie là-bas met nos corps à rude épreuve. Et on vous demande vraiment de prier pour ce sujet de façon régulière si vous le pouvez. Et puis une dernière bonne nouvelle, une dernière diapo qui nous réjouit beaucoup, c'est le 11 juin dernier, notre fille Ève s'est passée par les eaux du baptême dans notre église locale à Tana. Et merci Seigneur, c'est une joie en tant que parent. Alors merci encore pour vos prières, merci pour vos soutiens. Je ne sais pas si j'enchaîne tout de suite sur la prédication, c'est ça ? Voilà, on m'a demandé aussi de vous partager la parole de Dieu ce matin. On peut lancer l'autre diaporama. Ce matin, j'aimerais vous parler de l'importance de fonder sa vie sur toute l'Écriture. Ça, c'est le titre de ce message et on peut remettre la diapo d'avant. Diapo d'avant, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est une des photos que m'a envoyé un ami théologien il y a quelques années. Des photos où il tient une très vieille Bible. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, il y a une très vieille Bible dans les mains. Et je vous lis le message qu'il m'a envoyé avec son email où il a envoyé ses photos. Je vous lis ce message. Il m'a dit « Je voulais t'envoyer une photo prise à la bibliothèque de la British Bible Society à Cambridge, où j'ai eu l'honneur de tenir entre mes mains une des fameuses Bibles enterrées qui a survécu à la persécution des chrétiens malgaches au milieu du XIXe siècle. J'étais très ému de toucher ce livre relié en peau de chèvre, témoin de la fidélité du Seigneur, des convertis malgaches et des missionnaires britanniques. » Alors de quoi est-ce qu'il parle ici ? Il fait allusion à un épisode très important de l'histoire de l'Église à Madagascar. Il y a un peu plus de 200 ans, en 1820, les premiers missionnaires protestants sont arrivés à Madagascar, des missionnaires britanniques. Et une des priorités de ces missionnaires, c'était bien entendu de traduire la Bible en malgache, la langue locale. Pour cela, bien entendu, ils ont dû apprendre la langue, première étape. Et comme c'était aussi une langue essentiellement orale, il a fallu réfléchir à une mise par écrit de cette langue, une autre étape. Bien entendu, il a fallu aussi apprendre à lire et à écrire au malgache, et donc ils ont créé des écoles également, et ils ont fondé des écoles où ils apprenaient la lecture, l'écriture. Et figurez-vous qu'en à peine 10 ans, ils étaient juste une petite poignée de missionnaires, ils n'étaient peut-être même pas 5 au début, hein. En 10 ans à peine, ils avaient déjà traduit le Nouveau Testament en malgache. Et 5 ans plus tard, donc en 1835, la Bible entière était disponible, accessible, en malgache. C'est cette Bible que mon ami tient entre les mains ici, une Bible de 1835. Et si le Seigneur a permis qu'un tel travail se fasse aussi rapidement, c'est peut-être parce que quelques mois après l'arrivée de ces Bibles malgaches a commencé une période terrible pour les premiers chrétiens de Madagascar, une période de persécution. Les missionnaires ont été expulsés par la reine de Madagascar, les convertis malgaches ont été menacés s'ils ne voulaient pas lâcher leur foi chrétienne, et ils étaient maltraités, emprisonnés, certains ont été mis à mort à cause de leur foi. Pourtant, 25 ans plus tard, lorsque la persécution s'est achevée, le christianisme n'avait pas disparu, bien au contraire, il y avait 10 fois plus de chrétiens malgaches à Madagascar qu'au début de la persécution. Alors, il y a probablement plusieurs raisons à cette croissance malgré la persécution féroce. Mais l'une d'entre elles est certainement le rôle joué par la Bible. Durant la période de persécution, les chrétiens continuaient de lire la Bible en cachette. Ils continuaient de la méditer, de la lire. Ils la gardaient précieusement et certains, comme il dit mon ami dans son email, les cachaient même, les enterraient dans la terre pour pas qu'on les trouve et ils les déterraient pour les lire simplement, tel un précieux trésor. Voilà un exemple parmi des milliers d'autres témoignages qu'on peut observer dans l'histoire de l'Église à travers le monde. La Bible, c'est le best-seller numéro un de l'humanité. C'est le livre le plus lu, le plus copié, le plus édité, le plus traduit dans l'histoire du monde. La Bible a façonné l'histoire, a façonné la culture, a façonné la langue de nombreux pays du monde, y compris le nôtre en France. De tout temps et partout dans le monde, les chrétiens ont chéri la Bible comme vraiment un précieux trésor. Et encore aujourd'hui, dans certains pays où le christianisme est persécuté, certains chrétiens lisent la Bible au risque, parfois, de leur vie. Alors pourquoi ce livre a-t-il tant d'importance ? Pourquoi est-ce qu'il a eu une influence sans commune mesure avec aucun autre livre jamais écrit sur la terre ? Et pourquoi, et c'est le cœur de ce message, devrait-il occuper une place centrale dans notre vie chrétienne, dans notre vie avec Christ ? C'est le titre du message qui dit « Toute une vie fondée sur toute l'Écriture ». Est-ce que notre vie est fondée sur toute l'Écriture ? Et pour répondre à ces questions, je vous invite à lire un récit des évangiles qui nous montre la place importante que les Écritures occupaient dans la vie de Jésus lui-même. Et on va se tourner vers l'évangile de Matthieu, on va lire au chapitre 3, le texte s'affiche à partir du verset 16 et on va lire jusqu'au chapitre 4, verset 7. Je vous invite juste à prier avant. Seigneur notre Dieu, on te remercie pour ta parole qui est la vérité, qui fait autorité pour nos vies, pour ton Église. Et on te demande qu'à travers l'Écriture, tu puisses nous parler ce matin, tu puisses nous rappeler que tu es un Dieu qui nous a beaucoup parlé déjà à travers l'Écriture, qui nous parle encore aujourd'hui à travers elle. Viens par ton Saint-Esprit, ouvrir nos cœurs, nos pensées, notre intelligence, pour qu'on puisse être à l'écoute de ta parole. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Matthieu 3, verset 16. Dès que Jésus fut baptisé, il remonta de l'eau. Au même moment, les cieux s'ouvrirent pour lui. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et une voix venant des cieux dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je trouve toute ma joie. » Ensuite, Jésus fut conduit dans le désert par l'Esprit pour y être mis à l'épreuve par le diable. Après avoir passé 40 jours et 40 nuits sans manger, Jésus eut faim. Le diable, le tentateur, s'approcha d'eux et lui dit, « Tu es le Fils de Dieu. Ordonne à ces pierres de se changer en pain. » Et Jésus répondit, « L'Écriture déclare, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable l'emmena jusqu'à Jérusalem, la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car l'Écriture déclare, « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Jésus lui dit, « L'Écriture déclare aussi, « Tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur, ton Dieu. » On va s'arrêter là. Dans les évangiles, ce texte qu'on a lu, le baptême de Jésus, puis sa tentation dans le désert, ça constitue un peu l'inauguration de son ministère public. Après 30 ans passés quasiment incognito sur cette terre, Jésus va enfin prendre toute sa place et son identité réelle va être révélée par Dieu lui-même lors de son baptême. C'est Dieu qui va révéler qui est vraiment Jésus en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Mais de façon étonnante, juste après, le texte nous dit que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans le désert pour y être tenté par le diable. Et remarquez les premières paroles du diable. Si tu es le Fils de Dieu. Jésus n'a pas mangé pendant 40 jours, pendant 40 nuits, forcément il a un petit peu faim. Je pense que ça serait notre cas aussi. Alors le diable fait une petite insinuation. Je paraphrase un peu, j'exagère un peu le texte, mais « Yahoui, si tu es vraiment... » Qu'est-ce qu'avait dit Dieu tout à l'heure ?« Si tu es vraiment son fils bien-aimé, pourquoi ne pas transformer ces pierres en quelques petits pains bien chauds, croustillants ?» Vous voyez comment le diable procède ? Il part de ce que Dieu vient de dire à Jésus. C'est la même tactique que le diable a utilisé dans le jardin d'Éden avec Adam et Ève. Rappelez-vous ce qu'il leur a dit. Dieu a-t-il vraiment dit ? Mais qu'est-ce que répond Jésus ? Jésus répond en citant un passage, on peut mettre la diapo suivante, tiré du Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Il est écrit, dit Jésus. Il est écrit, l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus préfère la parole de Dieu au bon petit pain croustillant bien chaud. Et bien plus, il dit quelque chose d'encore plus fort que cela. Il dit, la parole de Dieu est ce qui me fait vivre. C'est quelque chose de plus vital que la nourriture. Jésus nous laisse là un exemple, je crois. Hein ? Toute parole qui sort de la bouche de Dieu doit devenir notre pain quotidien. Parce que la parole de Dieu, elle est aussi vitale que la nourriture. Cette citation du Deutéronome ressemble beaucoup à ce que dit l'apôtre Paul en 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Le texte va s'afficher. La diapo suivante. Toute l'écriture, dit le texte, littéralement, est soufflée par Dieu. Toute l'écriture sort de la bouche de Dieu, hein, c'est ça que ça veut dire. Elle est inspirée de Dieu, on traduit, elle sort de sa bouche. Toute l'écriture est soufflée par Dieu et utile pour enseigner, pour corriger, pour s'améliorer, pour être formé à une vie juste, afin que celui qui est en Dieu soit compétent, parfaitement équipé pour faire le bien. Toute l'écriture sort de la bouche de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà ce que nous dit ce texte. Et parce qu'elle est la parole de Dieu, elle nous transmet tout ce qu'il faut pour que nous soyons parfaitement équipés pour notre vie. Tout ce qu'il faut pour mener une vie bonne, une vie juste. Est-ce qu'on réalise ce que ça représente lorsqu'on dit que la Bible est la parole de Dieu ? Ça veut dire que lorsque je lis la Bible, j'écoute Dieu me parler. Vous savez, Dieu, le créateur de l'univers, hein, la personne la plus puissante de l'univers, la plus savante de l'univers, la plus âgée de l'univers, le plus grand spécialiste de l'univers sur des questions de vie, d'études, d'amitié, de vie de couple, de sexualité, de travail, de famille, de relations... Et pour l'entendre nous parler, pas besoin de prendre rendez-vous 3 ans à l'avance, comme chez le dermato, ou de payer un ticket d'entrée hors de prix, il suffit d'ouvrir sa Bible et de lire. C'est quand même génial, non ? Aujourd'hui, on parle beaucoup des influenceurs. Vous savez ce que sont les influenceurs ? Par exemple, les youtubeurs hein, qui sont payés pour nous vendre des gadgets pas très utiles. Ou bien ces footballeurs qui sont payés une fortune pour nous faire croire que vivre en Arabie Saoudite, c'est pas mal. Il y a plein d'influenceurs autour de nous, dans les médias, dans tout. Voilà. Et la question qui se pose, c'est combien de temps est-ce qu'on laisse les influenceurs de ce monde nous influencer? Et surtout, combien de temps est-ce qu'on laisse à notre Père Céleste, à notre Créateur de l'univers, pour nous influencer, nous? Et pourtant, notre Père Céleste, il n'a rien à nous vendre. Et au contraire, il a tout donné pour nous, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Il a tout donné pour nous démontrer son amour jusqu'à la vie de son Fils Jésus-Christ. Est-ce que sa parole occupe une place vitale dans notre vie, aussi vitale que la nourriture? Alors peut-être certains diront, moi j'aime la parole de Dieu, mais Dieu ne parle pas que par la Bible. Et moi ce que je préfère, c'est entendre Dieu me parler à travers les messages de mon prédicateur préféré, à l'épi bien entendu, hein. D'autres diront peut-être, moi je préfère les messages de Dieu personnalisés, que Dieu me transmet par son Saint-Esprit ou par une parole prophétique. Oui, bien sûr, Dieu ne parle pas que par la Bible, et moi j'en suis tout à fait convaincu, et c'est quelque chose qui est l'importance aussi dans mon enseignement. Dieu utilise aussi la prédication pour parler, sinon on ne serait pas là. Il inspire aussi des pensées par le Saint-Esprit qui vit en nous, des paroles par son Saint-Esprit. Mais le problème, c'est que nous sommes des êtres humains pécheurs. À commencer par le prédicateur qui vous parle. Et comment vous pouvez-vous savoir si ce que je suis en train de vous prêcher est vraiment la parole de Dieu? Si ça se trouve, je perçois un pourcentage sur la vente de Bible à la sortie. Je suis juste en train de me faire un peu d'argent. Qui sait? Et comment discerner les paroles de Dieu parmi toutes les pensées qui nous passent dans la tête? Si en ce moment même vous avez une vision du bon barbecue qui vous attend à la maison après le culte, c'est pas forcément le Saint-Esprit, hein? Peut-être, mais pas forcément. De façon peut-être plus grave, certaines de nos pensées sont influencées par notre nature pécheresse. Et certaines même, comme on le voit dans le texte qu'on a lu, peuvent être influencées par le diable, ses démons. Comment donc pourrais-je savoir si c'est Dieu qui me parle? Dans le passage qu'on a lu, Jésus nous donne sa réponse. Lorsque le diable veut mettre en doute la parole de Dieu venue du ciel, qu'est-ce que répond Jésus? Il répond, « Il est écrit ». Jésus dit, « Il est écrit ». Vous voyez? Jésus aurait pu dire, comme l'a dit le grand prophète Jean qui m'a baptisé, il faut savoir se contenter de sauterelles et de miel. Ou mieux, il aurait pu répondre, « Dieu m'a parlé tout à l'heure, depuis le ciel ». Ou encore mieux, Jésus qui est revêtu de la puissance du Saint-Esprit, aurait pu déclarer, par la puissance qui est en moi, je déclare que tu es un menteur. Mais Jésus ne fait pas cela. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il est écrit. Jésus ne fait appel ni à la prédication de celui qui l'a baptisé, ni à la parole audible de Dieu, ni même au Saint-Esprit qui parle à travers lui, mais à l'écriture, il est écrit. Et Jésus nous laisse là un modèle, un exemple pour nous. Face aux subtiles tromperies du diable, c'est la parole écrite de Dieu qui est notre assurance, qui est sûre et certaine. Seule l'écriture peut être ce fondement solide pour discerner la parole de Dieu. Seule la Bible nous permettra de savoir si ce qui est prêché est bien la parole de Dieu. Seule l'Écriture nous permettra de discerner la voix de Dieu parmi les différentes voix que nous pouvons entendre. Seule l'Écriture est la référence sûre et certaine pour nos vies. Sola scriptura, comme disent les réformateurs. Vous voulez entendre Dieu vous parler? Commencez par prendre le temps d'écouter ce qu'il a déjà dit. ouvrez votre Bible et vous verrez que Dieu a déjà beaucoup parlé. C'est comme ça qu'on apprend à reconnaître la voix de Dieu. Je loue le Seigneur pour la manière dont il parle à travers la prédication, il parle à travers la prophétie, à travers l'enseignement. Et je suis convaincu de ce que le Saint-Esprit qui vit en nous est un esprit qui parle, n'est pas silencieux. Il nous parle au quotidien. Je rends grâce pour la manière dont cette dimension d'un Saint-Esprit qui parle, d'un Dieu qui parle au quotidien, est mise en avant dans nos églises pentecôtistes charismatiques. Mais je m'inquiète aussi, que ce soit à Madagascar ou en France, et je crois que c'est assez mondial, d'un certain illettrisme biblique, d'une perte de connaissance de la parole de Dieu. Comme le récit de la tentation de Jésus nous le montre, ce n'est pas un point accessoire de la foi chrétienne. Le diable est très fort pour nous souffler des conseils dangereux. Et comme le montre Jésus lui-même, une profonde connaissance des Écritures, c'est indispensable pour tenir ferme. La Bible seule est la parole de Dieu, sûre et certaine à 100%, sans aucun doute possible. Est-ce que c'est ça le fondement solide pour nos raisonnements, pour notre réflexion, pour notre vie, pour notre pratique? J'aimerais aller un peu plus loin dans cette réflexion afin qu'on comprenne un autre point essentiel. C'est la diapo suivante. Jésus dit que ce sont toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Je ne sais pas si vous avez remarqué le texte. Il dit « toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu » qui doivent constituer notre pain quotidien. Et en 2 Timothée 3,16, le texte dit « Toute l'Écriture est soufflée par Dieu, est parole de Dieu. » Je crois que ce mot « tout », toute parole, toute Écriture, a son importance dans ces textes. C'est toute la Bible qui doit être le fondement de nos vies. Et non, pas juste certains versets qu'on aime bien ou qu'on va accrocher derrière notre voiture. À Madagascar, on fait souvent ça. Les gens mettent des versets sur partout. C'est bien de mettre en valeur la parole de Dieu. Mais ça ne suffit pas juste quelques versets. Et ce point, on le voit bien dans le récit de la tentation. Rappelez-vous, lors de la première tentation, Jésus indique « Ma nourriture, dit Jésus, c'est la parole de Dieu. » La parole écrite de Dieu. Il cite « Il est écrit. » Et qu'est-ce que fait le diable dans la deuxième tentation? Il réplique en citant l'Écriture. Je relis le texte, il dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car, dit le diable, l'Écriture déclare « Dieu donnera pour toi des ordres à ses anges, ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. » Alléluia. Le diable tente Jésus en citant l'Écriture. Et vous pouvez vérifier ce que dit le diable, c'est bien dans la Bible. C'est dans le psaume 91, mot pour mot. Vous voyez, le diable utilise l'Écriture pour encourager Jésus à pécher. C'est un peu à la manière d'un journaliste malhonnête qui cite la parole de Dieu pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Le diable, c'est le séducteur, c'est le trompeur, le pervers narcissique par excellence. Et il est expert pour détourner la parole de Dieu. Et malheureusement, il a séduit de nombreux soi-disant chrétiens qui, au fil de l'histoire, ont justifié un comportement contraire à la volonté de Dieu en citant la Bible. Certains ont justifié l'esclavage en citant la Bible. Les chrétiens ont été persécutés par d'autres chrétiens, entre guillemets, sur la base de textes bibliques. Des femmes ont été maintenues prisonnières d'un mari abusif, violent, parfois sur la base de textes bibliques. Vous voyez, c'est très facile de justifier tout et n'importe quoi en citant un ou deux versets bibliques. Et comme on le voit dans ce texte, le diable connaît très bien la Bible. Et c'est un expert pour lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Mais Jésus, bien entendu, il n'est pas dupe. Hein, parce que Jésus sait que le diable, ce qu'il lui demande de faire, est en fait contraire à l'Écriture. Il sait que le psaume 91, ce n'est pas un encouragement à faire du base jumping sans parachute. Hein. Le psaume 91, c'est un psaume qui invite à mettre sa confiance en Dieu. Et non pas un encouragement à mettre sa vie en danger pour savoir si Dieu m'aime vraiment. Surtout, je crois que c'est là l'essentiel, Jésus sait que la parole de Dieu qui est lue dans son ensemble, pas juste quelques versets, n'encourage pas à forcer la main de Dieu, à mettre Dieu à l'épreuve, comme il est écrit, « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. » Jésus nous laisse là un exemple. Il nous rappelle, il nous montre, à travers ce récit, à travers ce qu'il a vécu, que connaître la Bible, ce n'est pas juste prendre quelques versets bibliques et leur faire dire ce qui nous arrange. Connaître la Bible, c'est se nourrir de toute parole de Dieu. C'est se fonder sur toute l'Écriture. Toute l'Écriture avec toute sa richesse, toutes ses nuances. Est-ce que nous sommes prêts à faire de toute parole qui sort de la bouche de Dieu notre pain quotidien? Est-ce que nous sommes prêts à construire nos vies sur le fondement sûr et solide de la Bible tout entière? Si certains ce matin souhaitent répondre oui à cette question, je vais terminer ce message par quelques pistes pratiques pour fonder notre vie sur toute la Bible, pour nous aider à, c'est ça l'objectif, à lire toute la Bible. Bien entendu, la première chose à mettre en pratique si on veut fonder notre vie sur toute l'Écriture, c'est d'apprendre à lire la Bible tout entière. Toute l'Écriture en entier. Et contrairement à ce qu'on pense parfois, ça ne demande pas tant de temps que ça. Vous savez que si vous lisez la Bible 15 à 20 minutes par jour, vous l'aurez lu normalement en un an, voire moins. 15 à 20 minutes pour lire la Bible en une année. C'est 15 à 20 minutes, c'est plus court que le journal télé ou qu'un épisode de votre série préférée. Et c'est 15 à 20 minutes à écouter le Créateur de l'univers, le Dieu Tout-Puissant, à la sagesse infinie, nous parler, nous influencer. Vous voyez, ça ne demande pas beaucoup de temps. Mais c'est vrai que si vous avez déjà tenté de lire la Bible depuis le début jusqu'à la fin, dans l'ordre du texte, ce n'est pas toujours très facile. Hein ? En général, on commence par Genèse, là ça va encore, il y a des histoires sympas. Et puis on arrive à l'Exode, ça nous rappelle le film Les Dix Commandements ou le dessin animé Le Prince d'Égypte. Mais on arrive à la fin du livre de l'Exode, et là, ah, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Alors le Lévitique, en général, c'est là qu'on s'arrête. C'est plein de listes de lois sur les sacrifices, etc. Et on a un peu du mal à comprendre. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir plein de bons outils pour nous aider, comme il est affiché ici. Vous avez des bons outils qui sont là, que vous pourrez trouver dans votre librairie chrétienne préférée, ou à la, je ne sais pas s'il y en a au stand à la sortie, ou aussi sous forme d'application qu'on a sur nos smartphones. Il y en a beaucoup qui utilisent l'application YouVersion, la Bible, sur le smartphone, qui est vraiment géniale. Et un outil qui est utile pour lire la Bible en entier, c'est un plan de lecture. Utilisez un plan de lecture qui permet de ne pas lire la Bible forcément de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse dans l'ordre, on peut faire ça, mais de lire un passage de l'Ancien Testament chaque jour avec un passage du Nouveau Testament, un psaume, un proverbe. Donc c'est assez varié et c'est plus facile à suivre. Donc, par exemple, si vous avez des plans pour lire la Bible en un an, ou vous avez 2-3 chapitres de l'Ancien Testament pour le jour, un psaume ou un extrait d'un psaume, un extrait des proverbes, et un chapitre du Nouveau Testament. Vous trouverez, il y a plein de propositions, de plans qui existent aujourd'hui. C'est sur Internet, vous tapez Bible en un an, vous verrez, ou sur YouVersion, vous cherchez tous les plans qui existent. On vit à une époque formidable, on a tous les outils qui sont là. Vous avez aussi des plans de lecture pour ceux qui, préférez lire en 2 ans ou en 3 ans, ou en 6 ans, pour ceux qui veulent méditer chaque jour, un petit passage. Et ceux qui sont très motivés, vous avez des plans pour lire en 3 mois aussi. Hein. Donc c'est possible aussi de lire la Bible en 3 mois, en entier, même moins. Hein. Récemment, la Société biblique, c'est la photo d'après, a sorti un plan de la Bible à gratter. J'ai trouvé ça sympa. Donc à chaque fois que vous lisez un chapitre de la Bible, vous grattez le numéro correspondant. Et comme ça, vous voyez ce qui vous reste, ça fait une petite grille. C'est le seul jeu à gratter où vous gagnez à tous les coups. Donc, suivre un plan de lecture, ça, c'est une bonne chose. Apprendre aussi, vous savez, on a différentes traductions, et ça, c'est aussi quelque chose qui est formidable, c'est un privilège qu'on a. On peut essayer différentes traductions, voir les traductions avec lesquelles on est le plus à l'aise. C'est facile sur les applications, mais vous allez à la librairie chrétienne, ils vous montrent plusieurs Bibles et vous conseillent facilement. Et vous voyez ce qui est, avec quoi vous êtes le plus à l'aise. Un deuxième conseil que j'aimerais vous laisser aussi, c'est peut-être vous encourager à faire peut-être des petits groupes de lecture de la Bible ensemble. Non pas lire toute la Bible ensemble, mais suivre un plan de lecture ensemble, en petits groupes. L'idée, c'est que voilà, on commence un plan de lecture ensemble à plusieurs, et on lit chacun chez soi les passages un peu du jour, mais de temps en temps, on se retrouve. On se retrouve pour faire le point, pour s'encourager, se motiver les uns les autres, pour aussi discuter de ce qui a été lu durant la semaine écoulée, et aussi de témoigner, ça c'est important, de témoigner de comment Dieu nous parle à travers sa parole, de s'encourager de cette manière à travers l'Écriture. Ça peut être un petit groupe de 3 ou 4 qu'on va former pour l'occasion, ça peut s'inscrire aussi parfois dans des groupes existants, un groupe de quartier. Vous allez décider en quartier, tiens, on va suivre un plan, ou voilà, chacun est libre. Je crois que vous avez été beaucoup exhortés ces derniers mois à expérimenter la koinonia, du Seigneur, c'est-à-dire la communion fraternelle. La Bible, c'est aussi un moyen d'expérimenter cette communion fraternelle, de partager autour de la parole de Dieu ensemble. Vous voyez, donc c'est un peu comme quand on s'entraîne à un sport, quand on s'entraîne à la course, c'est bien d'avoir aussi des partenaires pour se motiver, s'encourager les uns les autres. Et puis le troisième point, troisième conseil, j'aimerais vous laisser, c'est intéressez-vous à la doctrine. C'est pas très à la mode ça comme mot. Hein. Qu'est-ce que c'est la doctrine ? La doctrine, c'est un résumé de l'enseignement de l'Écriture sur un sujet particulier. Par exemple, si on s'intéresse à qui est Dieu, on a la doctrine de la Trinité qui nous dit qu'il y a un seul Dieu qui existe éternellement en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bien entendu, vous ne trouverez jamais le mot Trinité dans un verset de la Bible. Vous ne trouverez même pas la définition dans un seul verset, on va dire, que je viens de vous donner. Mais si vous voulez tenir compte de tous les versets de la Bible au sujet de Dieu, vous serez obligé d'arriver à cette définition, à cette conclusion. Si vous n'arrivez pas à cette conclusion, c'est que vous avez raté des passages. Si vous avez raté certains versets, c'est le seul moyen véritable de faire en tenir ensemble tout l'enseignement de la Bible sur Dieu. Et ça, c'est ce que fait la doctrine. Les bons livres de doctrine réfléchissent sur plein de sujets différents. Qu'est-ce que nous dit la Bible sur Dieu, sur le salut, sur vie quotidienne, etc., sur plein de choses concrètes. Et c'est important de s'y intéresser parce qu'en s'y intéressant, on apprend à lire la Bible dans son ensemble. Alors, si vous ne savez pas où lire ou écouter de la bonne doctrine, n'hésitez pas à demander des conseils à des responsables de vos églises, de votre église. Et il y a de nombreux livres, il y a de nombreuses ressources qui sont disponibles aussi gratuitement en ligne aujourd'hui. Les ressources sont là, ça manque pas en français et dans d'autres langues, si c'est le français avec lequel vous êtes à l'aise. Mais il y a vraiment de tout pour les débutants ou les plus expérimentés qui est disponible pour creuser la parole de Dieu. Je crois qu'ici, vous avez aussi les cours INSTE qui permettent d'aller en profondeur dans la parole de Dieu. Et donc, n'hésitez pas, ça c'est des choses qui sont bonnes pour nous aider à avancer et à fonder notre vie sur toute l'Écriture. Voilà donc quelques conseils pratiques pour fonder sa vie sur toute l'Écriture. C'est vrai que c'est un message qui n'est pas très original, surtout pour un bibliste comme moi. Mais ça me semble être un message fondamental. C'est un des basiques de la foi chrétienne qu'il faut rappeler sans cesse, parce que l'Écriture, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu sûre et solide. Et c'est là-dessus qu'on pourra enraciner nos vies, on pourra construire nos vies sur du roc sûr et solide. Et bien entendu, il ne faut pas juste la lire, mais la mettre en pratique. Mais si on ne la lit pas, c'est difficile de la mettre en pratique. Je terminerai par un verset qui va s'afficher, qui est tiré du Deutéronome au chapitre 30, qui nous parle de la parole de Dieu, dans le contexte et les commandements de Dieu, en disant « Cette parole, dit Dieu, n'est pas hors de portée. » Elle n'est pas trop loin dans le ciel pour qu'on dise « Ah, c'est impossible à la trouver. » Elle n'est pas au-delà des mers pour qu'on se dise « Bon, comment y accéder ?» Mais elle est, comme dit le texte, tout près de toi. Dans ta bouche, dans ton cœur, pour que tu la mettes en pratique. Aujourd'hui, la parole de Dieu n'a jamais été aussi facile d'accès. Il faut le dire, quand vous regardez l'histoire. La parole de Dieu est tout près de toi. En vente à la sortie. Ou gratuitement dans ta poche sur ton smartphone. La parole de Dieu est tout près. Et la question qui se pose et que pose ce verset, est-ce qu'elle est dans ta bouche? Est-ce qu'elle est dans ton cœur? Pas juste dans ta poche. Ou sous ton oreiller comme on fait à Madagascar. La parole de Dieu est-elle dans ta bouche? Est-ce qu'elle influence tes paroles? Est-ce qu'elle influence ce que tu dis, ce que tu transmets autour de toi dans toute ta vie quotidienne? Est-ce qu'elle est dans ton cœur? C'est-à-dire, cœur dans la pensée biblique, c'est l'organe des émotions, mais l'organe aussi de la réflexion, l'organe de nos pensées. Est-ce qu'elle oriente tes pensées? Est-ce qu'elle oriente ta réflexion? Est-ce qu'elle oriente ton comportement dans la vie quotidienne? Est-ce que tu laisses le Dieu vivant être ton influenceur numéro un à travers une lecture régulière de sa parole? Je nous laisse cette question à nous tous. Je nous encourage vraiment à prendre cela au sérieux. C'est un sujet sérieux, comme nous le montre Jésus, comme nous l'a laissé cet exemple lorsqu'il est tenté par le diable. C'est un sujet vital pour nos vies. J'inviterai à peut-être fermer les yeux et à se placer devant Dieu. C'est peut-être le moment aussi de faire le point sur notre lecture de la Bible, la lecture de sa parole. Quelle place a la parole de Dieu dans nos vies? Est-ce que c'est aussi vital d'ouvrir la Bible pour nous que de nous nourrir chaque jour? Si ce n'est pas le cas, on peut demander pardon au Seigneur, demander de l'aide à son Saint-Esprit pour venir changer nos cœurs et nous aider à prendre goût à sa parole, prendre des décisions concrètes aussi peut-être pour nos vies, peut-être décider de former un petit groupe avec un ou deux amis. On peut se placer devant Dieu ce matin. Il est là, il connaît nos cœurs, nos pensées, il nous entend, il veut nous parler. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci parce que tu n'es pas un Dieu silencieux, mais un Dieu qui parle. Un Dieu qui, dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, parle à ses créatures. Merci Seigneur parce que tu nous parles au quotidien par ton Saint-Esprit qui vit en nous. Tu nous parles à travers nos frères et sœurs, que tu inspires aussi. Tu nous as parlé par Jésus-Christ, la parole faite chair. Seigneur, merci parce que tu veux aussi nous parler par l'Écriture, qui est ta parole sûre et certaine, solide comme le roc sur lequel on peut fonder notre vie, notre réflexion, nos pensées. Seigneur, nous te demandons pardon si peut-être nous passons si peu de temps à écouter ce que tu veux nous dire par ta parole, alors qu'elle est tout près de nous. Seigneur, viens changer nos cœurs par ton Saint-Esprit. Viens nous donner soif et faim de ta parole à nouveau. Je te prie de faire cela dans le cœur de chacun ce matin. Donne-nous de réaliser la grâce qui est là, de pouvoir ouvrir cette parole librement ici dans ce pays, dans notre langue, si facilement, et de pouvoir juste la lire et écouter ta parole, t'écouter nous parler à travers elle. Donne-nous de redécouvrir cette grâce, Seigneur. Je prie vraiment que tu nous aides à la remettre au centre dans nos vies, les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent et pour le restant de notre vie. C'est une décision, Seigneur, que nous prenons pour toute la vie parce que c'est une parole tellement riche, Seigneur, que nous la découvrons et la redécouvrons toujours à nouveau. Te rendons grâce pour cela et te rendons gloire aussi, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.
Merci Timothée. Est-ce qu'il y en a qui peuvent s'engager à prier pour Timothée ici? Amen. Et merci pour les nouvelles que vous nous avez partagées, pour ce cœur que vous avez aussi pour la parole, de la remettre au centre, c'était important. Merci pour cet encouragement pour chacun d'entre nous. On a été nourris ce matin et on bénit Dieu pour sa parole, pour sa présence au milieu de nous. Merci à chacun pour votre présence et pour tout ce qu'on a pu vivre encore. Merci de... Pensez à garder tout ce que vous avez reçu encore ce matin, notez-le afin que la semaine qui va démarrer puisse être équipée, on puisse la vivre accompagnée de sa parole. Dieu parle encore aujourd'hui, vous êtes OK avec ça? Amen. Avec toute l'équipe pastorale, le conseil d'administration et le conseil spirituel, on vous souhaite un bon dimanche. Que Dieu vous bénisse richement. À tous nos internautes, merci d'avoir été avec nous. Soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine, ça va comme ça? Bon dimanche à tous et à bientôt.